plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma, aujourd'hui M comme musicals ou comédie musicale en français, avec Ntebin, Isabelle Volguste et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Le genre dans sa version industrielle est mort depuis longtemps et pourtant on ne cesse depuis plus de 40 ans d'annoncer son retour. C'est peut-être enfin chose faite. Le succès planétaire phénoménal du La La Land de Damien Chazelle il y a 2 ans a enclenché la mise en chantier d'une flopée de films musicaux qu'on voit arriver en ce moment sur les écrans. Et en France, l'engouement du public pour l'exposition de la Philharmonie de Paris, comédie musicale, la joie de vivre du cinéma témoigne plus que jamais d'une soif inextinguible pour le musical. D'où vient ce bonheur qu'on ressent à voir sur grand écran des personnages se mettre à chanter et danser? Parce que, pour reprendre les mots de Michel Chion, expert et amoureux du genre, contre les forces de la dépression et les coups du sort, ce sont le chant, la danse et l'énergie qui s'affirment le mieux. Parce que dans un cinéma majoritairement naturaliste, la comédie musicale représente la possibilité de chanter sa joie au monde, de ressentir son lien à la communauté et à l'humanité, et donc d'exprimer plus pleinement sa vie, ou tout simplement parce que la contemplation du mouvement par lui-même et non au service d'une narration, la musique qui nous délie de l'écoute du dialogue, nous conduise, à condition de nous laisser faire, vers la jouissance des yeux et des oreilles. La comédie musicale ne serait-elle pas le cinéma dans sa plus pure expression? L'exposition immersive de la Philharmonie de Paris y répond. Par l'exemple, visite guidée avec son commissaire Ntebin, qui passe exceptionnellement aujourd'hui dans Plan Large du statut de chroniqueur à celui d'invité, et Isabelle Volguste, autrice chez Vendémiaire d'un précieux dictionnaire de la comédie musicale. En fin d'émission, Mathieu Macheret avouera son penchant coupable pour une comédie musicale transgenre, le très culte Rocky Horror Picture Show, qui ressort dans une superbe édition Blu-ray DVD richement enrichie. Mais pour l'heure, sur un air de claquette, direction la Philharmonie de Paris, parc de la Villette, et 5, 6, 7, 8. Ntebin, nous sommes dans l'entrée de cette exposition grandiose de la Philharmonie de Paris. Alors nous avons revêtu chacun un costume, qui peau d'âne, qui un ciré jaune ou une magnifique robe sertie de diamants, la robe du soleil. Nous sommes dans l'entrée de cette exposition comédie musicale avec d'abord une première question qui ouvre cette exposition mais qui ouvre aussi le catalogue de l'exposition. Qu'est-ce qu'une comédie musicale? Sachant un peu de quoi on parle, on va essayer de restreindre le champ. Déjà, est-ce qu'on peut parler de comédie musicale? Est-ce qu'il ne serait pas plus juste, comme les Américains, de parler de musical, Ntebin?
Oui, c'est-à-dire que la définition d'une comédie musicale, ce que les anglo-saxons appellent a musical, eh bien, c'est un film, parce qu'en l'occurrence, je ne parle que du cinéma, où les personnages se mettent à chanter, à danser ou à jouer d'un instrument de musique et que ça joue un rôle très important dans l'histoire. Parce que y a des films où il y a des chansons, mais qui ne sont pas des comédies musicales. Je connais un western de John Ford où il y a 17 chansons et ce n'est pas une comédie musicale, par exemple. Et il peut y avoir aussi un mélange de genres. C'est-à-dire qu'un film d'animation peut contenir des numéros chantés et dansés. À ce moment-là, je le fais entrer dans ma définition.
Est-ce qu'un film entièrement chanté, comme certains films de Jacques Demy, par exemple, Isabelle Volguste, ou certains opéras filmés, hein, on pourrait se dire Tosca, au cinéma, est-ce que c'est une comédie musicale?
Dans le cas de Jacques Demy, indéniablement. Pour l'opéra, c'est un petit peu différent. Mais il me semble que la comédie, pour compléter, c'est que c'est aussi utiliser tous les moyens du cinéma pour augmenter l'émotion. C'est-à-dire la danse, le chant, et quand c'est que chanter, les Parapluies de Cherbourg par exemple, c'est aussi indéniablement une comédie musicale.
Alors on entend derrière vous un air qui nous invite à rentrer dans cette exposition, première salle.
Oui, alors cette première salle, en fait, c'est une introduction au genre, mais aussi à l'histoire du genre, puisque c'est une salle consacrée au film Chantons sous la pluie, mais aussi à la chanson Singing in the Rain, qui date de bien longtemps avant, puisqu'elle date du début du cinéma parlant, lorsque le futur producteur Arthur Freed était parolier. Et c'est une chanson qui a été reprise dans d'innombrables films qui, à la fois, font référence à la chanson, c'est-à-dire elle a été écrite pendant la crise à une période où on incitait les gens à garder espoir malgré les tourmentes du monde extérieur. Et ensuite, c'est devenu le symbole de la comédie musicale. Et dans la mesure où c'est un film qui, comme beaucoup de musicals, raconte sa propre fabrication, c'est-à-dire ça raconte comment la comédie musicale a en quelque sorte sauvé le cinéma parlant du bavardage dans les années, à la fin des années 20, eh bien, je pense que c'était une bonne introduction, notamment aussi parce que c'est la seule comédie musicale qui apparaît régulièrement parmi, dans les sondages, parmi les 10 meilleurs films, toutes catégories confondues, de l'histoire du cinéma.
Oui, parce que c'est pas souvent quand on va demander à un critique de citer ses films préférés, les plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est pas souvent qu'on va citer une comédie musicale. La comédie musicale a quand même toujours été vue comme un objet un peu impur dans le cinéma et les critiques ont toujours eu du mal à en parler, à en faire quelque chose, surtout en France sans doute.
Je pense que c'est aussi dû à la réputation de frivolité, de légèreté, de trivialisation, puisque l'une des définitions aussi de la comédie musicale, c'est d'utiliser de la musique populaire. C'est-à-dire, même si le genre prend de l'opéra, il en fait de Carmen, il fait Carmen Jones, c'est-à-dire qu'il le rend plus populaire. Et donc, tout ce qui est censé être vraiment populaire est censé être moins savant, donc n'est quasiment jamais récompensé dans les festivals, par exemple, a rarement des Oscars, sauf s'il s'agit d'une œuvre très prestigieuse qui vient de Broadway. Donc, c'est pour ça, je pense, que les Français ont accolé le mot « comédie » à « musical » pour dire que c'est moins sérieux qu'un film, entre guillemets, dramatique, normal, digne d'être analysé, étudié. De la même manière que, par exemple, quand Carmen, l'opéra de Bizet, est sorti, on disait que c'était l'opéra comique, alors qu'il n'y a rien de comique dans Carmen. Donc pareil, Star is Born ou West Side Story ne sont pas des comédies, mais ce sont quand même des musicals.
Isabelle Volgust, c'est quand même curieux parce que le western, le film noir, tous ces le film d'espionnage, enfin tous ces films de genre qui sont aussi des divertissements, ont provoqué en France, en tout cas, un regard critique très pointu. Pourquoi la comédie musicale reste, malgré tout, peut-être que c'est en train de changer, l'enfant pauvre de la critique en France?
Je pense que c'est culturel aussi. La comédie musicale a été inventée aux États-Unis. Ça fait partie de leur éducation. Je veux dire, même au lycée, ils jouent des comédies musicales, ce qui n'est pas du tout le cas en France. C'est en train de changer avec l'arrivée des comédies musicales sur scène, par contre. Mais sinon, il y a une espèce de mépris en France, effectivement, pour ce qui est léger, ce qui est à mon sens une erreur. Et d'autant qu'on peut citer Jacques Demy, qui est vraiment c'est un génie, certes, mais c'est aussi une façon de traiter un monde obscur avec légèreté. Donc c'est vraiment utiliser tous les moyens du cinéma. Et pour moi, c'est le cinéma total, en fait, la comédie musicale. C'est vraiment l'inverse.
Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut freiner certains spectateurs ou critiques, même aux États-Unis. C'est qu'on nous demande de suspendre un peu notre idée du réalisme. C'est-à-dire que dans la vie, en principe, les gens ne se mettent pas spontanément à chanter et à danser alors qu'ils sont en train de marcher dans la rue ou de se servir à un petit déjeuner. Donc ça, c'est quelque chose qui parfois freine les détracteurs de la comédie musicale. Et à partir du moment où on accepte cette suspension du réalisme, qu'on accepte en fait beaucoup mieux sur scène qu'à l'écran, eh bien, on se laisse embarquer dans un autre monde. Mais ça demande une certaine disponibilité de spectateur, je pense.
On pourrait parler de toute la comédie musicale à partir de Chantons sous la pluie et des différentes versions d'ailleurs qu'on voit ici, mais on va quand même rentrer dans votre exposition Entebbe avec cette particularité, c'est que tout d'un coup on arrive dans l'exposition et on ne sait plus où donner de la tête. On n'est pas dans un cheminement habituel, un chemin qui voudrait nous raconter une histoire. Nous sommes dans un espace global avec des niches ici et là, et surtout un écran gigantesque, je pense le plus grand écran que j'ai jamais vu dans une exposition sur le cinéma. Comment est-ce que vous avez pensé cette globalité, cette idée peut-être que la comédie musicale coexiste, quelle que soit l'époque à laquelle elle a été fabriquée?
Alors il y a une chose qu'on voulait absolument, c'est que le visiteur de l'exposition soit immergé dans une comédie musicale. C'est-à-dire que l'écran, il fait 24 mètres de base. C'est-à-dire que même si vous êtes au premier rang au cinéma, vous n'êtes pas à ce point-là dans l'univers. Donc c'est une exposition très immersive. Et ça, le scénographe, directeur artistique Pierre Giner l'a très très bien compris. Puisque pour la première fois, l'espace d'exposition de la Philharmonie est complètement ouvert. Mais alors, il est ouvert, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que cet écran-là. Et en regard de ça, vous avez des tas de petits espaces, beaucoup plus circonscrits, où les gens avec un casque se branchent, se pluguent, pour avoir des contenus plus pointus, plus savants, qui racontent la fabrique de la comédie musicale. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement dans une approche historique, chronologique, on est plus dans le découpage de toutes les compétences qu'il faut avoir pour produire une comédie musicale, c'est-à-dire un espace sur la chorégraphie, un autre sur le décor, un autre sur le costume, un autre sur la composition des chansons ou sur le casting.
Voilà que se sont invités à la fois Elvis Presley, John Travolta. Là, on est très en avant déjà dans l'histoire de la comédie musicale. C'est la comédie musicale rock. Moi, je voudrais qu'on aille aux sources, aux origines de la comédie musicale sur un des panneaux qui, malgré tout, nous oriente dans cette exposition. Nous avons les origines scéniques de la comédie musicale. C'est pas pour rien que la comédie musicale naît aux États-Unis. C'est qu'il y a déjà une culture au départ, qui est une culture du spectacle musical chanté sur scène. Et c'est évidemment le spectacle de Broadway, Isabelle Volgus.
Oui, ça commence effectivement sur scène à Broadway avec Jérôme Kern et Showboat qui intègrent le chant et la danse dans la dramaturgie. Donc ce qui change des vignettes, il y a des moments où on chante ou pas, là ça fait vraiment partie du spectacle. Et à partir de là, il y a l'arrivée du parlant ensuite au cinéma et ensuite très très vite, dès 29, avec les premières comédies musicales.
Mais avec des allers-retours à Entebbe qui sont souvent surprenants parce que on mettra beaucoup de temps évidemment à Hollywood à produire des comédies musicales sui generis, enfin qui sont inventées à Hollywood, ou est-ce que dès le départ il va y avoir, il faut rappeler quand même que le premier film parlant n'est pas un film parlant, c'est un film chantant, c'est le chanteur de jazz, donc il y a malgré tout une culture propre de la comédie musicale qui se développe tout de suite à Hollywood.
Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait Hollywood au début du parlant fait feu de tout bois. Au départ, ce qu'on se dit, c'est que on va faire venir des talents de la scène, parce que à l'écran, on n'a pas encore appris à mettre en scène des acteurs qui parlent, et donc, mais c'est la scène au sens large. C'est pas que Broadway, c'est aussi le vaudeville, c'est-à-dire la forme de music hall américaine qui vient de l'Angleterre, mais c'est aussi les grandes revues type Ziegfeld Follies, par exemple. C'est voilà, tout ça se conjugue avec la question. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer ou trouver comme histoire qui se prête à l'insertion de chant et de danse? Donc pour faire un spectacle total. Et donc là, de la même manière, soit on prend des spectacles déjà tout constitués, soit on prend une pièce non musicale et on la transforme en comédie musicale, ou soit on fait une série de sketchs à la suite, et puis on va, avec un petit lien, on va imaginer que ça deviendra une comédie musicale, ou soit aussi on raconte l'histoire de professionnels du chant et de la danse qui montent un spectacle. Et c'est pour ça que la comédie musicale, c'est un genre très autoréflexif, c'est-à-dire qui pratique la mise en abîme, ce qui est le film dans le film, la pièce dans le film, qui permet que les gens acceptent que les héros et les héroïnes des films se mettent à chanter et à danser.
Bel exemple ici. Vous pouvez nous décrire ce qu'on voit, Isabelle Volgus, sur le grand écran très grand écran de l'exposition sur les comédies musicales à la Philharmonie de Paris.
Là, on voit Fred Astaire et Ginger Rogers en train de danser sur Cheek to Cheek, qui est un tube que tout le monde connaît. Donc, beaucoup d'ailleurs d'airs musicaux, de tubes du jazz ont été créés pour la comédie musicale. Et là, sur cet écran, c'est totalement magique.
Alors, pourquoi c'est magique? Parce que cette exposition est sous-titrée « La joie de vivre au cinéma ». Alors là,
La joie de vivre du cinéma.
La joie de vivre du cinéma, mais c'est aussi la joie de vivre au cinéma. C'est-à-dire, c'est la joie de vivre que ressent le spectateur aussi en voyant. Et quand on voit danser Fred Astaire et Ginger Rogers, mais beaucoup de moments ici, on est transporté par un plaisir. Alors, il faudrait presque faire un travail psychanalytique, neurologique. Qu'est-ce qui provoque ça chez le spectateur?
Je pense que c'est un côté régressif. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de l'acceptation du réalisme de quelqu'un qui se met à chanter, à danser. Les enfants l'acceptent beaucoup mieux que les adultes. Dans les films d'animation, ça ne les gêne pas du tout. Donc, ce qu'on montre ici avec cet extrait de Top Hat, avec Fred Astaire et Ginger Rogers, c'est que cette même séquence est tellement iconique dans le cinéma américain qu'elle a été reprise sans cesse dans d'autres films. C'est-à-dire le film que regarde Mia Farrow à la fin de La Rose Pourpre du Caire, le film que le condamné à mort dans La Ligne Verte regarde, c'est non seulement c'est le même film, mais c'est le même numéro musical avec les mêmes images.
Isabelle Volguste, d'où vient ce bonheur ?
Je sais pas, je suis transportée rien qu'en regardant l'écran, donc je ne sais même pas quoi. C'est le fait aussi d'avoir une comparaison aussi et un montage qui est particulièrement brillant sur les différentes scènes des films qui se répondent. Je crois que ça ajoute à l'émotion aussi.
Moi, je pense franchement que cette joie de vivre, c'est quelque chose qu'on doit puiser à l'intérieur de soi quand on est spectateur ou quand on est personnage de film pour arriver à supporter des contrariétés de la vie. C'est pour ça que je dis que la comédie musicale, c'est un genre utopique, puisque finalement, elle propose des résolutions de conflits à travers une sorte de représentation de ces conflits. C'est la catharsis du théâtre antique par le biais du chant et de la danse, donc de quelque chose de sublimé. Et c'est pas un hasard si le milieu des années 30, avec l'arrivée de la censure, où on ne peut plus représenter, par exemple, la sexualité ou la violence au cinéma, eh bien, on va la transformer, la canaliser à travers le chant et la danse, la styliser pour qu'elle devienne non seulement acceptable à l'écran, mais qu'elle provoque une joie de spectacle.
Ce qui est frappant d'ailleurs, c'est qu'on voit ici Fred Astaire et Ginger Rogers. Fred Astaire et Ginger Rogers, couple très célèbre du cinéma, ne s'embrassent quasiment jamais. Il n'y a que dans Roberta, je crois, qu'ils échangent un furtif baiser. Vous parliez de censure. La sexualité dans la comédie musicale passe par la danse.
Absolument, la sexualité dans la comédie musicale passe par le chant et la danse. Je vous donnerai un exemple qui n'est pas hollywoodien, qui est le cinéma indien. C'est-à-dire qu'à Bollywood, depuis les années 30, tous les films sont musicaux. C'est-à-dire à l'intérieur d'un polar, d'une comédie romantique, d'un drame, d'un film d'action, on met des chants et des danses. Parce que déjà, il y avait la censure du cinéma indien, qui venait d'ailleurs du cinéma britannique au départ, faisait que... Par exemple, on n'avait pas le droit de s'embrasser à l'écran. Donc, encore aujourd'hui, c'est-à-dire la tradition s'est perpétuée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le héros et l'héroïne se rapprochent, et plutôt que de s'embrasser ou, à plus forte raison, de faire l'amour, eh bien, ils se mettent à chanter, à danser, d'où les fameuses scènes de sari mouillé, etc. Donc, vous voyez que ça n'est pas propre à l'Amérique. Cette idée de transformer finalement les émotions humaines violentes ou foudroyantes en spectacle à travers le chant, la danse et la musique.
Isabelle Volguste, comment est-ce que le code Hays, donc le code de censure hollywoodien qui se met en place au début des années 30, dans une période un peu intermédiaire, hein, qui nous donne tous ces merveilleux films pré-code, va presque construire le langage de la comédie musicale?
Mais en fait, avec le code Hays qui était extrêmement strict, qui encadrait tout, y compris les postures de corps, de position de pied ou de choses comme ça, il va y avoir vraiment un mouvement de résistance qui va s'organiser pour inventer des moyens de contourner cette censure et de donner donc effectivement par la danse des moyens d'expression assez impressionnants. Et il y a aussi toute une culture queer qui va se...
On va en parler, qui se
met en place avec, on parlait d'Arthur Freed, qui est donc le producteur de la MGM, qui a ramené tous les talents de Broadway et à Hollywood, qui travaillaient ensemble, et bon nombre d'entre eux étaient homosexuels. Et alors qu'avant avant le code Hays, la représentation des homosexuels posait pas de problème. À partir de 34, ça devient un problème. Donc c'est un moyen de contourner les choses, et il va y avoir une avancée historique. On en parlera après, donc si vous voulez.
Oui, mais il y a le personnage de Edward Everett Horton, personnage qu'on retrouve souvent dans les comédies de Ginger Rogers et Fred Astaire, et dans The Gay Divorcé. Eh bien, le personnage est un peu trop gay, donc il va falloir le réécrire. C'est ce que vous racontez dans votre dictionnaire de la comédie musicale, Isabelle Volguste.
Absolument. Donc, il y avait toutes les problèmes. Ce qui était acceptable, c'était la figure de la sissy, donc ce qu'on peut traduire par la folle. C'est-à-dire, il y avait des métiers qu'on pouvait considérer comme les coiffeurs, les danseurs aussi d'ailleurs, les costumiers. Là, c'était tout à fait acceptable. À partir de 34, donc on va lisser le personnage, qui aura donc plus de sexualité du tout. Mais alors après, ça va s'inscrire différemment. Il va y avoir ce qu'on appelle les films crypto-gays, donc avec des messages que les spectateurs gays peuvent identifier.
On parlera tout à l'heure avec Mathieu Macheret du Rocky Horror Picture Show, qui lui est complètement, plus du tout crypto-gay, mais absolument queer. Mais alors, on ne voit pas de sexualité à l'écran, on ne voit pas d'homosexuel à l'écran, et il y en a qu'on ne voit pas beaucoup non plus, et qui pourtant sont très importants pour la naissance du genre musical aux États-Unis, ce sont les Noirs. On est ici devant un panneau qui s'appelle Star is Born, avec un certain nombre de stars éminentes de la comédie musicale. On retrouve Fred Astaire, on a John Travolta, Maurice Chevalier, Liza Minnelli et tant d'autres. Et puis dans un coin, en haut à gauche, on a Lena Horne. Lena Horne, qui était la seule actrice noire, en tout cas la première à avoir été signée par un studio, mais qui n'a pas beaucoup joué, ça on avait raconté son histoire dans un plan large précédent, qui n'a pas beaucoup joué parce qu'il n'y avait pas de rôle pour elle. Les Noirs, ce sont un peu c'est le hors-champ de la comédie musicale.
C'est le hors-champ, un hors-champ très important, mais qui par exemple s'était exprimé à travers la musique. La musique de jazz qui était si importante et qui explose dans la culture populaire américaine au moment où le cinéma parlant d'ailleurs commence à faire son apparition. Mais c'est vrai que à l'époque, soit vous aviez des films à distribution entièrement noire, c'est-à-dire dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de mélange entre guillemets, soit vous aviez des séquences individuelles où on misait sur l'attractivité et le talent incroyable d'artistes afro-américains, comme ici Louis Armstrong qu'on voit avec Barbara Streisand, mais dans des séquences isolées, soi-disant, enfin ou prétendument, parce que ces séquences étaient facilement coupé dans les États du Sud, mais bon, ça n'a sans doute pas été le cas. Mais en tout cas, voilà, Lena Horne, elle, a beaucoup souffert du fait de ne quasiment jamais avoir tenu de rôle principal dans un film, sauf dans deux films à distribution entièrement noire, c'est-à-dire Un petit coin aux cieux de Minnelli et Stormy Weather, Symphony Magique.
Cabin in the Sky, qui d'ailleurs sont tournés tous les deux en même temps, au milieu de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les soldats noirs américains vont au front. C'est peut-être pas un hasard. Et Fred Astaire, lui, rendra hommage autant qu'il peut aussi à ces grands danseurs noirs. On se souvient du numéro de cireur de chaussures dans Tous en scène, The Bandwagon, mais aussi ce moment étonnant, je crois que c'est dans Les ailes de la danse, où il va danser avec des ombres, et cette ombre représente le grand claquettiste qui est Bojangles, Isabelle Volgus.
Oui, Bojangles, qui est Bill Robinson, donc qui était un claquettiste hors pair, qui joue d'ailleurs dans Stormy Weather, et Fred Astaire lui rend hommage. Et à l'époque, il a été critiqué parce qu'il est grimé. Il est grimé en noir, mais c'est vraiment un hommage. De la même manière qu'il parlait des Nicholas Brothers qui font un numéro, mais alors... ça n'est même plus descriptif tellement c'est magique. Dans Stormy Weather, c'est vraiment c'est une façon de rendre hommage. Mais pour revenir sur la culture noire, c'est vraiment, enfin, le cinéma au départ, c'était pas un art noble. Donc il y avait vraiment qui a commencé par travailler, les femmes, les pauvres, les noirs, les juifs, qui vivaient tous plus ou moins dans le même quartier vers Brooklyn. Et c'est cette mixité, ce mélange là qui a créé aussi la comédie musicale.
Donc, celle qu'on entend chanter derrière, c'est évidemment ni Fred Astaire, ni Bojangles, c'est Björk. Dans la comédie musicale de Lars von Trier, qui était aussi un hommage. On parlait de The Bandwagon, de Tous en scène, ça ne s'appelle pas Dancing in the Dark pour rien.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que les gens qui me objectent mon sous-titre « La joie de vivre du cinéma » me disent « Bah oui, mais Dancer in the Dark, on ne peut pas dire que c'est la joie de vivre. » Et moi, je réponds « Mais les seuls moments où le personnage de Björk a un semblant de joie de vivre, c'est quand elle se croit dans une comédie musicale. » Et là, dans l'extrait qui est montré sur cet écran géant, c'est le procès quand même où elle va être condamnée à mort et où elle ne cesse de se réfugier en fait dans un univers de comédie musicale où même le procureur et les jurés tapent des mains pendant qu'elle danse des claquettes avec Joel Grey, qui est l'ex maître de cérémonie de cabaret et qui vient ici lui rendre hommage à la comédie musicale comme seul moyen finalement de garder un petit peu de joie de vivre.
Alors qu'est-ce qu'on entend là? On entend des claquettes parce que c'est l'entracte, et pendant les entractes on peut apprendre à danser des claquettes avec un très très grand claquettiste français qui s'appelle Fabien Ruiz. qui avait fait la chorégraphie de The Artist. Hein, par exemple, le grand numéro musical à la fin de The Artist, c'est Fabien Ruiz qui l'a créé. Dans votre dictionnaire de la comédie musicale, Isabelle Volgus, vous faites un long article sur les claquettes, parce que pour vous, c'est l'essence même de ce qu'est la danse dans la comédie musicale.
Ouais, mais c'est-à-dire que la comédie musicale, il y en a qui privilégient le chant, d'autres, plutôt avec Judy Garland d'ailleurs en général, quand c'est les films américains, d'autres la danse, et il y en a qui arrivent à combiner les deux, genre la West Side Story par exemple. Et les claquettes, pour moi, c'est vraiment, enfin, alors là, on parle de joie de vivre, c'est vraiment la joie de vivre, c'est le rythme, c'est le cœur qui bat, c'est aussi, dans le cinéma, une façon de filmer les claquettes qui est assez impressionnante, et puis c'est un art... extraordinaire. Puis c'est aussi un mélange d'ailleurs qui vient des Irlandais, des Noirs américains. Et il y a des numéros de claquettes, que ce soit Fred Astaire ou Gene Kelly, qui sont quand même totalement transportants.
Ce qui est beau, Antebin, c'est que les claquettes, c'est la danse qu'on entend.
Absolument.
C'est un plaisir audiovisuel total.
C'est-à-dire qu'au départ, on dit que c'était les enfants noirs dans les rues qui n'avaient pas de quoi se faire accompagner, donc qui dansaient tout en faisant leur propre musique avec leurs pieds. Et c'est vrai que ce qu'a apporté, par exemple, Fred Astaire à l'art des claquettes au cinéma, puisqu'il l'a popularisé dans le monde entier à cette époque-là, c'est que Astaire était un batteur, un percussionniste hors pair. Et il fait des percussions avec ses chaussures. Donc c'est à la fois de la musique et de la danse. Et c'est pour ça que ça contribue au spectacle total. Et ça contribue aussi à populariser le jazz visuellement à l'écran.
Un des bonheurs de la comédie musicale, c'est évidemment le sentiment de simplicité. C'est-à-dire qu'on regarde ça, on se dit tout est simple, tout est facile, il suffit de s'envoler et on va danser, on va sauter très haut. Évidemment, pour faire tout ça, ça demande des moyens considérables et déjà des moyens techniques qui sont le problème sonore. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va enregistrer ces claquettes, comment est-ce qu'on va enregistrer les gens qui chantent, comment est-ce qu'on va donner surtout ce sentiment voilà, de facilité, de fluidité totale. Pour ça, il faut des moyens monstrueux, MTB.
Alors, ce qui est intéressant avec le son dans les comédies musicales, c'est qu'il y a trois statuts différents du son. Il y a le son préenregistré, qui en général, c'est les chansons, qui vont être ensuite interprétées en playback avec les interprètes qui vont mimer les paroles sur le tournage.
Le playback a été inventé pour la comédie musicale.
Oui, qui a été inventé, enfin qui a été mis au point au début des années 30. Il y a tout ce qui est son direct pris sur le plateau. Et c'est au début, toutes les comédies musicales, les claquettes et les chants étaient pris sur le plateau, puisque c'était même ça l'attractivité du cinéma parlant. Et puis, il y a la post-synchronisation, c'est-à-dire que pour les claquettes soient exactement synchronisées avec ce qui a été réalisé sur le tournage, on se met dans un... Gene Kelly détestait ça, d'ailleurs. On se met avec des écouteurs dans un studio et on fait sur place, on refait les bruits des claquettes en se doublant soi-même ou en doublant quelqu'un d'autre, puisqu'on dit que souvent Ginger Rogers, qui était parti tourner un autre film, au moment de la post-synchronisation des claquettes, était doublé pour les bruits par Hermès Pan, qui était le chorégraphe de Fred Astaire.
Oui, c'était très rare à réussir à se doubler eux-mêmes ou elles-mêmes. Eleanor Powell, elle le faisait parfaitement. Mais alors, on parlait de ceux qui n'étaient pas à l'écran, les Noirs tout à l'heure. Le hors-champ, c'est ceux qui doublent, justement. Isabelle Volgust, on a ici les artistes de l'ombre. La plus célèbre de ces méconnus, de ces inconnus, c'est Marnie Nixon. Pourquoi est-ce qu'on va faire doubler des chanteurs, des acteurs par ces voix de l'ombre?
Alors ça, c'est le mythe américain du comédien américain qui sait tout faire, danser, chanter. Mais c'est surtout que le cinéma, c'est un art de l'artifice. Donc le principe, c'est vraiment d'avoir le plus beau son, la plus belle mélodie. C'est pareil pour les danseurs. Gene Kelly a fait doubler certains danseurs parce qu'il y a des claquettistes, il y a des danseurs de ballet. Mais pour ce qui est du son... C'est vraiment dans My Fair Lady où il y a Marnie Nixon qui double Audrey Byrne. D'ailleurs, on entend dans l'exposition les voix originales et les voix qui les doublent. C'est assez impressionnant. Il y a notamment la fée Delilah dans Podane qui est Delphine Seyrig, qui a une voix particulière et que je trouve en plus assez magnifique. Donc je me suis dit, en l'entendant, ça va être forcément très très bien. Et on se rend compte que la voix qui la double est vraiment à une portée émotionnelle plus forte. Donc c'est vraiment un art de l'artifice et c'est ce qui fonctionne.
Marnie Nixon, il faut le préciser, c'est la voix de Natalie Wood dans West Side Story, c'est la voix d'Audrey Hepburn, c'est parfois deux voix dans la même, ouais, dans la même chanson. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle interprète, c'est Deborah Kerr aussi dans, dans Le Roi et moi, c'est qu'elle est une véritable interprète, puisqu'on ne saurait pas dire que ce ne sont pas elles qui... Elle, elle raconte, je crois que c'est dans, la, dans, dans, votre, catalogue, dans votre catalogue, comment elle se met dans la peau du de la comédienne pour pouvoir ensuite enregistrer.
Absolument. Ces artistes de l'ombre, donc ces doubleurs ou doubleuses, en fait, c'était presque des imitateurs ou des imitatrices. C'est-à-dire qu'il y avait une qualité mimétique. Elle devait prendre le timbre et devait prendre les intonations de l'acteur ou de l'actrice qu'elle doublait. C'est assez formidable. Ce qui l'est moins, c'est que, par contrat, des gens comme Marnie Nixon s'engageaient à ne jamais révéler que c'était elle qui avait doublé. Ils étaient payés au forfait. Ce qui fait que Marnie Nixon, qui est sans doute l'artiste de comédie musicale qui a vendu le plus de millions de disques dans l'histoire du genre, eh bien, elle n'a jamais touché de royalties pour elle-même, sauf Leonard Bernstein, qui était scandalisé par cet état de fait, lui a cédé une infime pourcentage de ses propres royalties, ce qui a permis à Marnie Nixon d'en vivre jusqu'à pour West Side Story, jusqu'à la fin de ses jours. Mais c'est vrai que cet anonymat était requis parce qu'on disait, il y a une légende qui disait que si une actrice où un acteur était doublé dans un film pour les chansons, il ne pouvait pas être nommé aux Oscars. Donc à ce moment-là, alors le silence s'est fait encore plus assourdissant.
Mais Marnie Nixon a aussi participé à faire sortir justement les chanteurs de l'ombre, les Ghost Singers. À partir des 60 ou 70, elle a commencé à en parler. Et parce qu'il y avait aussi un intérêt économique pour les studios de ne pas payer les gens et de toucher plus d'argent sur les disques. Et grâce à elle, ça s'est démocratisé, ça s'est ouvert. Et au demeurant, maintenant, les gens sont au générique. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tellement plus payés.
On a parlé du son, mais évidemment, la comédie musicale, ce sont surtout des images. Et si vous avez parlé du besoin de croire que c'est vraiment le comédien, danseur qui va chanter, on a aussi cette question de la mise en scène. Comment mettre en scène une comédie musicale pour que le spectateur n'ait pas l'impression d'être berné, d'une certaine façon, c'est-à-dire que ce qu'il voit à l'écran est réellement advenu quelque part sur scène, sans non plus qu'à l'inverse, ça donne le sentiment d'un numéro de force, d'un tour de force, d'un numéro de prestige que le spectateur ne pourrait jamais faire. C'est sur cette tension que se joue la question de la mise en scène, Anne Tebbin.
Surtout, il y a en fait deux options opposées. Vous avez l'option du naturel, c'est-à-dire que Fred Astaire ou Gene Kelly, en l'occurrence, étaient très forts pour ça, c'est-à-dire pour faire très progressivement entrer la partie musicale chanter ou danser à travers dans un récit parlé ou voilà naturel, et donc c'est imperceptible. Et puis vous avez à l'autre bout du spectre des personnes qui se produisent dans un spectacle dans le film, et à ce moment-là tout le monde comprend qu'il y a un rideau qui s'ouvre, et puis le chant et la danse ont voix de cité dans un monde imaginaire qui est celui de la scène et qui parfois prend des dimensions extravagantes, comme chez Busby Berkeley par exemple, où on s'aperçoit vraiment qu'aucun spectateur de ce théâtre-là ne peut voir ce que nous, spectateurs de cinéma, nous voyons à l'écran.
C'est aussi la question de la surface plane de l'écran et comment rendre la profondeur, le 3D dans un espace qui est en deux dimensions. Alors, chez Busby Berkeley, d'ailleurs, j'ai l'impression, Isabelle Volgus, que vous ne l'aimez pas beaucoup, Busby Berkeley. Dans l'article que vous lui consacrez dans votre dictionnaire, vous parlez un peu d'un défilé militaire. Enfin, c'est quelqu'un qui n'était pas un danseur, mais avant tout un organisateur de défilé. Ça se sent dans ce qu'il fait. En même temps, ce qu'on voit des extraits produits ici, dans cette exposition à la Philharmonie, c'est qu'on est presque dans l'expérimental. La force, sans doute, de la comédie musicale, on parlait de Sergio Leone la semaine dernière, c'est de faire du cinéma expérimental, du cinéma d'avant-garde, tout public.
Absolument, mais je pense qu'à l'époque, c'était effectivement révolutionnaire. Mais avec le temps qui est passé, moi, j'ai un petit peu de mal, effectivement, comme spectatrice, parce que c'est très cadencé. Il n'y a pas une jambe qui dépasse. C'est aussi ce qu'on peut reprocher aussi parfois à la comédie musicale, quelque chose de très propre, très lisse, ce qui est le cas des chorégraphies de Busby Berkeley. Puis il y a un autre truc aussi, c'est la place de la femme. J'ai vraiment beaucoup de mal. C'est toujours la même, blonde. Je sais que c'est censé être une sublimation de la beauté de la femme. J'ai surtout l'impression que c'est une addition d'objets, quoi. Mais bon.
Alors, pas d'accord, évidemment. Mais vous savez, dans le ballet classique, c'est pareil, il n'y a pas une jambe qui dépasse, parce qu'il faut que tout soit parfaitement réglé. Et d'autre part, moi, ce que j'aime énormément chez le Busby Berkeley, notamment dans ses films dits pré-code, c'est qu'il y a une sorte de libération de l'expression par le corps de la danse, de tout ce qui est interdit dans le scénario, eh bien, s'exprime à travers les numéros musicaux et d'une façon qui est à la fois très érotique, très sensuelle, mais aussi presque abstraite dans l'imagerie qu'elle provoque. D'ailleurs, il y a des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont leurs partenaires en quelque sorte, libèrent le désir de leur corps à travers la chorégraphie, ce que je trouve extraordinaire. Et puis, c'est aussi l'occasion de pratiquer un art purement visuel à l'écran, puisqu'il fait danser la caméra. Et cet art, d'ailleurs, qui va être repris, Busby Berkeley, va être repris énormément par des artistes, des vidéo-artistes, dans des installations qui reprennent ce côté presque abstrait de la chorégraphie.
Mais le sentiment du collectif, c'est aussi quelque chose qu'on n'a peut-être qu'en comédie musicale. On parle de ces ensembles de ballets, mais il y a quelque chose de profondément politique, puisque évidemment, montrer le corps, c'est toujours une question politique dans la comédie musicale, qui est ce sentiment de danser tous ensemble, de participer à quelque chose, mais aussi sur la manière de danser. Et les grands qu'on voit ici, on est rentré avec Gene Kelly, on a vu Fred Astaire, mais il y a un passage, Fred Astaire, ce serait presque l'aristocratie genre, et Gene Kelly, ça serait la question, le corps presque prolétaire, en fait, c'est le corps de tous les jours, qui ne danse pas en chapeau haute forme, mais qui danse en t-shirt et en pantalon moulant.
Ben, ce qu'ils ont en commun, Astaire et Kelly, de toute façon, c'est que à la fin de la projection, le spectateur doit s'imaginer qu'il est capable de faire la même chose. C'est-à-dire que c'est tellement à l'écran naturel, ça vient d'eux-mêmes et ça paraît tellement spontané alors que c'est le fruit de répétitions perfectionnistes, etc., que voilà, on pourrait faire comme eux. Alors, soit on pourrait faire comme eux, c'est-à-dire d'une manière idéalisée, c'est-à-dire on est dans un monde où tout le monde est élégant et c'est un univers, c'est l'univers plutôt d'Astaire. Soit on a en nous suffisamment de ressources pour qu'on soit prolétaire ou soldat ou voilà, pour arriver à transcender notre condition terrestre. Donc, et finalement, ces deux pôles se rejoignent.
Et c'est en cela, pour revenir à ce que vous abordiez tout à l'heure, Isabelle Wolguste, que le queer s'est emparé de la comédie musicale parce que c'était un espace où on pouvait justement se créer une liberté, se reconnaître à une possibilité de liberté, d'exultation.
Oui, je pense. On peut citer, vous avez cité tout à l'heure The Rocky Horror Picture Show. Au départ, c'était un spectacle sur scène d'ailleurs, mais pour un petit noyau de fans. Et puis ça a transporté tout le monde parce que c'est une liberté totale. Je veux dire, en entendant la musique, la chorégraphie, c'est vraiment effectivement un ensemble où tout le monde peut trouver sa place, et c'est encore en salle aujourd'hui. Et il y a encore des spectacles dans la salle de cinéma sur The Rocky Horror Picture Show. Et ensuite, il y a eu Cabaret, bien sûr, qui a tout changé.
Alors, il n'y a pas que des images dans cette exposition. On peut se déplacer complètement de l'autre côté. Il y a aussi quelques fétiches, et notamment pour les fans nombreux, petits et grands, de Jacques Demy, peau d'âne. Qu'est-ce qu'on a devant cette chaumière?
Alors, devant cette chaumière agrandie, grandeur nature, on a les deux seules œuvres finalement empruntées pour l'exposition, qui sont la vraie peau d'âne portée par Catherine Deneuve dans le film de Jacques Demy en 1970, et puis la robe couleur soleil qui n'avait pas survécu mais qui avait été recréée pour l'exposition Jacques Demy à la Cinémathèque française. Et évidemment, il y a la séquence où ces deux costumes jouent, puisque c'est la recette pour un cake d'amour. Et donc ce podium, en fait, est consacré au costume, puisque finalement, dans les comédies musicales, le costume fait partie de la chorégraphie. Donc on a un livre géant, par exemple, avec les dessins des robes de Sitcharis, la plus grande danseuse de la comédie musicale, qu'on pourra mettre en rapport avec des extraits de films. Et puis on a un agrandissement géant d'un essai de costume de Marilyn Monroe pour un film qui s'appelle La Joyeuse Parade, et une interview du créateur de costume de Grease et de All That Jazz qui nous explique les difficultés de concevoir un costume pour une comédie musicale.
Ces deux robes de Podane sont quand même, elles sont ici en majesté, mais c'est un peu l'arbre qui cache une forêt misérable. La comédie musicale en France, au cinéma, n'a jamais réellement existé. Il y a eu Jacques Demy, on parlera la semaine prochaine de Jean Renoir, puisqu'on va aller visiter encore une autre exposition, celle du musée d'Orsay. French Cancan est peut-être une des très rares comédies musicales françaises. Pourquoi ça n'a jamais pris en France ?
Je pense que en France, on est quand même très attaché à une tradition réaliste à l'écran, et que la comédie musicale étant très identifiée en plus à l'Amérique, donc il y a le côté à la fois attraction et répulsion pour tout ce qui est américain, et d'autre part, il faut avoir des épaules très solides en tant que producteur pour arriver à monter un projet de comédie musicale. Alors quand vous êtes à un studio hollywoodien et que vous avez tout le monde qui est engagé à l'année, qu'il faut bien rentabiliser finalement ces salaires qu'on verse toutes les semaines à des musiciens, des arrangeurs, des compositeurs, des chanteurs, des danseurs, des chorégraphes, c'était naturel de produire les films à la chaîne et d'en faire un genre de masse. Mais aujourd'hui, quand on veut faire une comédie musicale, c'est du coup par coup. C'est-à-dire qu'il faut quasiment construire, organiser un véritable petit studio exprès pour pouvoir produire un seul film. Donc, et les producteurs français sont très réticents à cette idée-là, d'autant plus que le public ne s'est pas gagné d'avance. Donc...
Oui, parce que le succès ici est énorme. Peut-être que si vous aviez fait cette exposition il y a 5 ans avant la sortie de La La Land, ça n'aurait pas été le cas. D'ailleurs, La La Land a le droit à un bel écran qui explique toutes les sources de ce film qui est quand même, on dira pastiche, hommage, selon qu'on aime le film ou pas. Est-ce que vous sentez, avec ce succès extraordinaire de votre exposition, qu'il y a un désir de comédie musicale qui renaît et que peut-être un nouvel âge d'or, rêvons, de la comédie musicale adviendra ?
Absolument. En tout cas, il y a beaucoup de réticences qui ont été levées. Je pense aussi parce que les jeunes générations sont plus à même d'accepter le chant et la danse dans leur vie courante. Les jeunes d'aujourd'hui, mais par le hip-hop, par la danse de rue, etc., la musique fait partie de leur vie, beaucoup plus qu'avant. Ils se baladent avec de la musique dans les oreilles toute la journée. Donc, il y a ça. Ce qui fait que les enfants, les adolescents rêvent de participer à des spectacles de comédie musicale. C'est une tradition, comme le rappelait Isabelle, en Amérique, mais en France, c'est relativement récent. Et puis les succès, non seulement des films, c'est-à-dire La La Land, qui au départ personne ne voulait produire, est devenu un succès mondial, y compris en France, et les adolescents d'aujourd'hui connaissent la musique de La La Land par cœur, et puis les succès sur la scène de théâtre, c'est-à-dire que aussi bien de la musique savante, c'est-à-dire le Châtelet, qui montait des comédies musicales en version originale, surtitrées, comme si c'était des opéras, et puis les grands succès populaires, comme en ce moment il y a Chicago, mais il y avait eu avant Grease et le Roi Lion, qui permettent que le public familial, celui qui vient à cette expo d'ailleurs pour se déguiser en robe de comédie musicale ou en veste de Fred Astaire, apprécie le genre et accepte finalement de se laisser immerger par cet univers. Et c'est quelque chose que les générations d'aujourd'hui font beaucoup plus facilement que leurs parents et leurs grands-parents, je pense. Ce qui me frappe, c'est que c'est le désir de tous les metteurs en scène de faire des comédies musicales. Et alors, souvent, ils n'y arrivent pas, mais ils mettent une séquence musicale qui va, comme ça, au milieu du film, exprimer leur amour du genre. Je pense récemment à, par exemple, La Forme de l'eau, où vous avez un numéro musical et de nombreuses références à des comédies musicales, ou le tout récent succès du Grand Bain, où tout d'un coup vous avez Esther Williams qui apparaît dans des films des années 50. Je pense évidemment à la scène finale de The Artist, qui n'est pas une comédie musicale, qui est un film muet, mais où justement le numéro de claquette a une importance majeure dans le développement du récit. Donc finalement, c'est grâce à l'amour des réalisateurs pour ce genre que peut-être un nouvel âge d'or se prépare, puisque entre Bohemian Rhapsody, A Star Is Born, cinquième version, Le Retour de Mary Poppins et ce qu'on nous annonce pour les mois à venir, je crois que voilà, le genre a de beaux jours devant lui. I want to step out down the Champs-Élysées, from the Arch of Triumph to the Petit Palais, that's for me. Bonjour Paris. I want to wander through the Saint Honoré, do some window shopping in the Rue de la Paix, that's for me. See the den of thinking men like Jean-Paul Sartre. I must philosophize with all the guys around Montmartre and Montparnasse. I'm strictly tourist, but I couldn't care less. When they parlez-vous me, then I gotta confess, that's for me. Bonjour Paris. Light up the Louvre Museum, jazz up the Latin Quarter, to show the richest and the poorest. Here it comes, the great American tourist. This has got to be illegal, what I feel. Très gay, très chic, très magnifique, c'est moi, c'est vous, c'est grand, c'est tout, tout. It's too good to be true, all the things we can do.
L'exposition Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma dure jusqu'au 27 janvier à la Philharmonie de Paris. Ne la ratez pas, vous en sortirez heureux et vos enfants avec vous. Et si vous voulez vous y initier aux claquettes avec le grand Fabien Ruiz, c'est tous les mercredis, samedis et dimanches de 13h30 à 17h30. Un plaisir à prolonger en lecture avec le très beau catalogue de l'exposition édité à la Martinière et le dictionnaire de la comédie musicale d'Isabelle Volguste, c'est chez Vendémiaire, et surtout en allant voir des musicals sur grand écran. La Cinémathèque française reprendra son cycle comédie musicale à partir du 12 décembre et jusqu'au 6 janvier. En attendant, vous pourrez voir dès mercredi prochain Audrey Hepburn, Fred Astaire et Kate Thompson visiter Paris en chantant et en dansant. C'est ce qu'on entend en ce moment dans le merveilleux Funny Face de Stanley Donen qui ressort en salle en version restaurée. Toutes ces informations, dont l'exposition du Centre National du Costume de Scène à Moulins sur les costumes de musicals, c'est sur le site franceculture.fr à la page Plan Large. Et maintenant, bienvenue dans le château de toutes les extravagances.
Brad, please, let's get out of here.
For God's sake, keep a grip on yourself, Janet.
But it seems so unhealthy here.
It's just a party, Janet.
Well, I want to go.
Well, we can't go anywhere till I get to a phone.
Well, then ask a butler or someone.
Just a moment, Janet. We don't want to interfere with their celebrations.
This isn't the Junior Chamber of Commerce, Brad.
They're probably foreigners with ways different than our own. They may do some more folk dancing.
Look, I'm cold, I'm wet, and I'm just plain scared.
I'm here with nothing to worry about.
How'd you do, I? See, you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad dying because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania.
Ne soyez pas coincés par mon apparence, ne jugez pas un livre sur sa couverture. Je ne suis pas vraiment un homme à la lumière du jour, mais la nuit, je suis un sacré amant. Je suis un gentil travesti de transsexuel. Transylvanie, première apparition du très flamboyant et ultra queer Frankenfurter dans The Rocky Horror Picture Show, le film qui fit de Suzanne Sarandon une star sur l'air de touch, 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 touch me. Touchez-moi, je veux être sale. L'expression est souvent galvaudée, mais s'il est un film culte, c'est bien celui-là. Ça fait plus de 40 ans qu'il fait l'objet de véritables messes participatives. À Paris, c'est tous les vendredis et samedis soirs au Studio Galande. Et révélation, dans ce plan large consacré aux comédies musicales, le très sérieux critique du journal Le Monde que vous êtes, Mathieu Macheret, qui ne juge que par Straub, Huillet et Robert Bresson, mais qui avait déjà avoué ici même, il y a 3 semaines, son penchant coupable pour les atrocités gore de Lucio Fulci. Eh bien, Mathieu Macheret est aussi un fervent adepte du délire iconoclaste et outrancier qu'est The Rocky Horror Picture Show, plus qu'un film, une expérience, Mathieu.
Oui, c'est vrai que c'est... D'ailleurs, le Rocky Horror Picture Show doit plus sa notoriété, en effet, au phénomène culte qu'il a suscité, qu'à lui-même, hein, il est plus connu pour ça. C'est un film qui est tiré trait pour trait d'une pièce de théâtre assez exubérante, enfin d'un musical théâtral qui avait fait le voyage de Londres jusqu'aux États-Unis, hein, les théâtres de New York et jusqu'à Los Angeles. Ça avait plus marché à Los Angeles qu'à New York d'ailleurs. C'était l'œuvre d'un musicien qui s'appelait Richard O'Brien, qu'on retrouve dans le film dans le rôle de Riff Raff, celui du majordome un peu inquiétant à la Frankenstein aussi. Enfin, le film est très inspiré de Frankenstein. Voilà, ça avait été adapté en film assez rapidement suite au succès à Los Angeles, et ça avait été le film avait été accueilli par un espèce de bide retentissant jusqu'à ce que le producteur du film, Lou Adler, qui était aussi lié au domaine de la musique, remarque qu'une partie des spectateurs restait, hein, alors il y avait beaucoup qui partaient, qui claquaient les sièges en cours de séance, mais il y avait un certain nombre qui restaient là, et donc alors il faut rendre au producteur la responsabilité de la chose, parce que on dit souvent que c'était un phénomène de spectateurs. Mais voilà, Lou Adler a eu le flair de créer une sorte de rituel autour du film aux séances de minuit, hein, qui étaient des séances assez particulières pour un public freak qui venait aussi parfois déguisé, voilà, un public assez particulier, et qui a réussi par cette idée à convertir l'échec en succès. Donc le Rocky Horror, comme on l'appelle, hein, c'est un film qui raconte sur un mode parodique l'histoire d'un jeune couple perdu dans la nuit qui frappe à la porte d'un manoir habité par un travesti, Frankenfurter, venu d'une planète lointaine et où se donne une réception très spéciale. Ce film était à chaque fois rejoué à l'intérieur de la salle avec les habitudes qu'on connaît. On jette de l'eau quand il pleut, on jette du riz à la scène de mariage, on commente de manière goguenarde tout ce qui se passe à l'écran. Et bon, les spectateurs ont fini par le connaître par cœur, et ça nous interroge. On se demande s'il n'y avait pas quelque chose de ce film, de son énergie, qui devait absolument traverser l'écran et qui invite le spectateur à une forme d'expérience en miroir. Le culte était né, il s'est pas démenti au fil des années, mais quelque chose était enfoui en même temps, c'est-à-dire le film, hein, qu'on n'a pas souvent regardé pour lui-même, sinon parfois avec des intérêts ou sinon avec un certain mépris. Et donc il y a quelque chose qu'on peut se demander: qu'est-ce que ça vaut le Rocky Horror Picture Show vu chez soi, sans le riz, l'eau et toutes les blagues? C'est un objet paradoxal, on peut dire assez mal réalisé, faut bien le reconnaître, ou plutôt de façon désinvolte, par Jim Sharman, qui était le metteur en scène de la pièce, hein, un homme de théâtre, des planches, et donc un réalisateur assez inexpérimenté. Mais le film, et c'est là son paradoxe, n'en demeure pas moins d'une exubérance totalement réjouissante, même parfois assez émouvant, et en tout cas très riche, ce qui fait qu'on peut le regarder vraiment plein de fois sans perdre en valeur de l'expérience. Mais voilà, donc sous son emballage assez approximatif se cache en vérité un grand mélange d'ingrédients divers et tous très bien réussi. Déjà, le casting bariolé, surprenant. Alors, Suzanne Sarandon en 5 nitouches qui s'initie à la luxure. sûr. Un Tim Curry assez génial en travesti pansexuel, et puis une apparition du chanteur gothico-opératique Meatloaf, etc. Bon, qui se mélange à la distribution originelle de la pièce, aux vrais acteurs de la pièce de théâtre. Des chansons glam rock vraiment excellentes, en vérité, elles sont très bien. Certaines sont devenues un peu des tubes underground, hein, comme même l'ouverture du film, Science Fiction Double Feature, le Time Warp ou Switch on Vestite qu'on a entendu dans l'extrait. Il y a des costumes délirants, des maquillages extravagants, des décors de briques et de brocs, mais qui cherchent jamais à faire oublier leur origine théâtrale. C'est ça l'important. Et puis il y a surtout un appel assez joyeux à un hédonisme partageur et multiple, et donc cette mise en scène modeste, qui pariait avant tout sur la reproduction de la pièce à l'écran, sans le moindre surmoi d'auteur, permet de conserver l'esprit, l'énergie foutraque de cette pièce. Et sa frivolité et son à peu près sont même au cœur du registre parodique du film. Et il faudrait dire quelque chose d'ailleurs sur le fait que la comédie musicale a souvent partie liée à la parodie. Hein, c'est quelque chose d'assez ancré dans le genre. C'est une sorte, ce Rocky Horror, dommage détourné aussi, il faut le dire, au cinéma de genre horrifique et fantastique, et plus particulièrement à la série B hollywoodienne.
Whatever happened to Fay Wray? That delicate satin-draped frame, as it clung to her thigh, how I started to cry, 'cause I wanted to be dressed just the same. Give yourself over to absolute pleasure, swim the warm waters of sins of the flesh, erotic nightmares beyond any measure, and sensual daydreams to treasure forever. Can't you just see? Yeah. Whoa, whoa, whoa.
Oh. Voilà, on a entendu le jingle de la RKO au début de l'extrait, qui était cette major hollywoodienne assez fameuse, avec le logo qui apparaît dans le fond de la scène, dans l'image. Tim Curry, enfin Frankenfurter, qui évoque Fay Wray au début de sa chanson, l'héroïne de King Kong. On l'entend bien, le Rocky Horror Picture Show est tout du long jalonné d'une multitude de références au cinéma hollywoodien, un certain cinéma hollywoodien, ces petites productions fauchées et inventives qui occupaient dans le système des studios une place minoritaire, mais qui savaient susciter l'imaginaire, les fantasmes, les projections troubles, etc. Un cortège de monstres et de créatures étranges, qui est véritablement ce à quoi le Rocky Horror Picture Show rend hommage, hein, en étendant la charge symbolique de ces monstres au domaine sexuel. Le monstre, hybride, est précisément ce qui ne rentre dans aucune case, désarçonne les conventions, tout comme les figures du travesti et du transsexuel que le film met en scène, sous un genre extravagant, c'est vrai, et qui déborde allègrement la répartition étanche des genres sexuels. Tout du long, le film est une invitation à aller voir ailleurs, à franchir les barrières, à visiter d'autres sexualités sans se renier soi-même, et sans oublier le désespoir et la cruauté qui sous-tendent malgré tout le désir. Le film est une ode à l'expérience minoritaire, quelle qu'elle soit, et reste surtout, c'est ça qui le rend très beau je trouve, une traduction du théâtre intérieur du cinéphile, hein, qui rêve d'embrasser les ombres charnelles qui scrutent sur l'écran, et pourquoi pas de se transformer lui aussi, et peut-être à un moment de devenir quelqu'un d'autre. We'll be right back.
Merci Mathieu. The Rocky Horror Picture Show, c'est en digibook, Blu-ray et DVD chez Fox Pathé Europa, avec des bonus qui vous feront revivre l'expérience du culte comme si vous y étiez. Et sinon, Mathieu Macheret peut aussi vous faire une démonstration personnelle de Time Rap. Écrivez, on transmettra. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Hélène Langlois et Clara Galivelle dans l'exposition Comédie Musicale et Jacques Azubert à Radio France. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, encore une visite d'exposition dans Plan large, celle que le musée d'Orsay consacre au Renoir, père et fils. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.